Il y a du baseball en ce moment, les Blue Jays qui tentent de remporter leur dernier match avant de se rendre au Rogers Stadium, au Rogers Center à Toronto. Première fois en plus d'un an et demi. Ils mènent présentement 3-0. Et là, Springer vient de frapper un coup sûr. Donc, nous sommes rendus à 4-0 de ce côté. Et le Canadien, si vous venez juste de vous joindre à nous, vient de mettre la main sur Mathieu Perrault, un contrat d'un an, 950 000 $. Lui, je ne sais pas combien il fait, c'est pas vraiment important, mais il nous raconte des histoires vraiment phénoménales depuis le début de la semaine. C'est Jean-Luc Brassard. Salut, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Je suis loin de 950 000 $.
Arrête, c'est pas ça qu'on te donne, si?
Non, mais c'est pas grave, je suis content de vous parler.
Tellement le fun, Jean-Luc, puis tu sais, je fais des blagues avec le fait qu'on a commencé le sujet, je pense, lundi, puis on est rendu jeudi, puis je vais finalement avoir ma réponse. On parlait des préparations d'Olympique, à quel point c'était d'avance que vous preniez les devants pour préparer les choses, vous déplacer sur place, et là, tu avais commencé à parler des lits, que ça prenait des lits spéciaux, exemple pour les joueurs de basketball, et là, ça m'a donné l'idée de dire... C'est vrai, eux, il faut qu'ils fassent affaire avec autant d'athlètes amateurs que d'athlètes professionnels depuis l'arrivée des professionnels aux Olympiques. Mais là, eux autres, ça, on vient de le dire, ça gagne des millions. Je ne sais pas si c'est des lits de fortune ou sont vraiment dans un Marriott, les athlètes olympiques, mais est-ce qu'ils se plaignent de leur qualité de vie pendant ces deux semaines-là aux Olympiques?
C'est les plus fins. C'est vraiment, c'est des athlètes exceptionnels. Et d'ailleurs, eux, je te tutoie, là, Martin.
J'espère bien.
Les chambres olympiques, là, d'ailleurs, on va régler quelque chose tout de suite, parce qu'à chaque Olympiade, on en parle. Il y a un commanditaire de condoms aux Jeux olympiques, puis tout le monde en parle, là, comme quoi ils donnent quelque chose comme 150 000, je sais pas, condoms, peu importe le chiffre, là, c'est déproportionné.
Des chauds lapins aux Olympiques.
Mais c'est ça, tout le monde dit, ça doit être une partouze épouvantable. Il y a vraiment pas de partouze épouvantable, là, tout simplement parce qu'il y a vraiment pas d'intimité dans les villages olympiques. C'est des chambres minuscules où il y a plusieurs personnes par chambre, où il y a au minimum de deux athlètes par chambre. Normalement, la raison pour laquelle les condoms, c'est probablement partent rapidement, c'est simplement parce qu'il y a des pays qui ont vraiment pas accès à ça. Et les gens pigent là-dedans comme dans le panier de bonbons. Ils doivent ramener leur valise complète de condoms. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde en parle. Puis les médias se font toujours prendre à chaque Olympiade de parler de ce sujet-là qui, en fait, en est tellement pas un. Parce que c'est comme un étudiant d'université qui... Ça fait minimum 4 ans qu'il est à l'université, ça lui coûte pas les yeux de la tête ici, mais ça lui coûte quand même des choses. Il met du temps de fou pour passer son examen final. Est-ce qu'il va aller faire le party avant son examen final? Ben, bien sûr que non. Puis après, ben le temps est bien limité. Après, une fois que les athlètes ont fini leur épreuve, ils retournent chez eux presque, en tout cas, quelques jours de préavis. Puis surtout, ben, ils sont avisés par le comité de leur pays qui veulent surtout pas avoir du monde qui arrive à 3 heures du matin pacté dans le village puis qui réveille les autres qui s'en vont compétitionner. Ça, là, c'est celui qui fait ça, je pense que ça va être la gang de lutteurs qui vont sortir du village. Là. Ça fait que c'est
un manque de respect.
Ben, exactement. Puis pour ce qui est des athlètes professionnels, ben, eux, entre autres à Sochi, où j'étais assistant chef de mission, moi, c'était moins mon département parce que j'étais affecté à la montagne, mais c'était François-Louis qui était assistant chef pour la partie hockey en bas. Et les chambres étaient vraiment pas grandes, là. C'était spartiate, là. C'était deux petits lits simples avec une table de chevet puis une lampe. Là, c'était ça la chambre olympique, là, avec peut-être une ou deux commodes, là, puis that's it, là. Le reste, c'est du gypse blanc, puis c'est juste ça que ça se passe. Les joueurs de hockey, aussi grands et aussi costauds ils soient, ils ont accepté d'être 3 par chambre. Alors, petit lit simple, petit tabouret qui tenait une lampe et puis leur sac de vêtements au pied du lit. C'est pas gros, là. Je peux te garantir que c'était pas gros. Ils voulaient ça. Ils étaient heureux d'être là. Ils avaient réservé une des raisons pour laquelle ils étaient 3 par chambre, c'est parce que les chambres étaient contingentées. On peut pas en avoir 50 000. Et ils avaient voulu réserver des chambres pour faire un salon des athlètes pour les joueurs de hockey. Et dans ce salon des athlètes, ils avaient mis la photo de tous les autres participants de l'équipe canadienne, pour que les joueurs de hockey qui n'avaient pas eu le temps vraiment de fraterniser dû à leur horaire de compétition, de pouvoir et de connaître chacun des autres athlètes pour qu'ils puissent échanger avec eux autres puis pas avoir de l'info en disant ben, « OK, t'es qui toi? Ah, t'es champion du monde? Non, je m'excuse, je ne savais pas. » Alors, wow. Ils prenaient le temps de s'informer sur les autres, de les connaître, et ça donnait vraiment des moments magiques parce que pour eux, c'était comme des enfants qui arrivaient dans le monde magique de l'Olympique. T'sais. Là, je te crée un parallèle qui va un peu expliquer la situation. Quand tu habites dans une belle maison, puis un moment donné, en famille, tu dis, on va aller faire du camping, c'est super le fun. Mais quand tu habites toute l'année dans une tente de camping, c'est un peu moins le fun. Fait que c'est là un peu, on pourrait comparer les athlètes amateurs et les athlètes professionnels. C'est que pour eux, c'est super le fun. Puis même pour les athlètes amateurs, c'est super le fun d'être aux Jeux olympiques. Mais la différence, c'est qu'eux autres vont tourner chez eux avec un gros salaire. Bah, le salaire mérité, tu sais, c'est les partisans, ils font vendre des chandails, puis les partisans, ils font vendre des droits de télé, ça fait qu'ils ont un salaire en conséquence. Alors que les athlètes olympiques, eux, quand ils retournent chez eux, ben ils retournent principalement chez leurs parents, tu sais. Ça fait que ça fait un peu le contexte. Et ils sont hyper gentils et généreux de leur temps envers les autres athlètes. Ils sont curieux, ils veulent connaître. Si les autres athlètes leur posent des questions sur leur sport, la plupart du temps, ils vont détourner l'attention pour reprendre la question, savoir toi en luge, qu'est-ce que tu fais, tata, comment ça se passe. Ils sont vraiment curieux. C'est vraiment une belle complicité qui s'installe.
Wow! Écoute, t'es un champion. En plus, tu m'avais envoyé comme en termes de radio, puis là, je vais faire tomber le quatrième mur. Là. Tu m'avais envoyé un tease en me disant j'ai toute une histoire sur le hockey, je vais vous surprendre. Puis tu m'as eu. Quelle histoire?
Ben oui! Mais c'est puis tu sais, j'ai des images, entre autres, de Sidney Crosby qui est avec Michael Kingsbury à la finale de Sochi dans la cérémonie de clôture. Et les deux croquent leur médaille à côté de l'autre, là, leur médaille respective. Et aussi, il y a une histoire, tu vas voir, c'est assez cocasse. C'est bon. Parce que là, on remonte au jeu de 2010 et il y a un problème de glace pour l'entraînement de l'équipe canadienne. La glace fonctionne pas, il s'est passé un hic quelconque, peu importe, c'est pas grave. Et là, ils se disent, ben tiens, on va aller faire un entraînement de hockey bottine dehors, parce qu'il n'y a pas de glace. Et là, ces joueurs-là, multimillionnaires, peu importe, ça n'a pas d'importance, ils redeviennent des enfants. Ils sont pas loin d'être des enfants, là, ils ont peut-être 20, 25 ans, ouais. Mais là, ils redeviennent des enfants qui jouent au hockey bottine. Je pense que ça a été un point tournant dans la conquête de la médaille d'or du Canada. Il s'est soudé un esprit d'équipe parce que là, on revenait tout à fait à l'essentiel du sport, s'amuser. S'amuser à hockey bottine, comme quand il avait 10 ans puis il shootait sa sécheuse dans le sous-sol. Ouais. C'était juste ça l'affaire. Et ils ont tellement aimé ça, ils en ont tellement rigolé après que à Sochi, 4 ans plus tard, pour les Jeux d'hiver, ils ont refait quelques entraînements de hockey bottine, pas parce que la glace n'était pas prête, parce que ça les ramenait dans un mindset, dans un état d'esprit qui était axé sur le plaisir, et ça permettait de rapprocher l'équipe, de souder l'équipe, parce que en bout de ligne, là, c'est toujours ça. Un joueur, là, que vous ayez un Wayne Gretzky dans votre équipe, c'est le fun, mais un Wayne Gretzky ne battra pas l'autre équipe. Ça prend une équipe forte, puis un des meilleurs exemples, c'est le miracle, le Miracle on Ice, là, à Lake Placid, quand les Américains avaient battu les Russes pour leur permettre d'aller jouer après ça le match de la médaille d'or. C'était une équipe de jeunes. Et quand les jeunes décident, tout le monde, là, il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Quand ils décident de se tenir ensemble, il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Et ça, c'est une espèce de magie qui est bien dure à créer quand même pour des psychologues et tout ce monde-là, parce que c'est quelque chose qui est tellement authentique, là, ça dépasse la programmation. Et parlant de programmation, il y a une autre chose aux Jeux olympiques qui est assez spéciale. C'est que, mettons que le Canada affronte, on va dire, la Slovaquie, ou peut-être même, tu sais, la Suisse, ou la Biélorussie. Oui, c'est ça. Là, ben eux autres, les joueurs d'hockey de la Ligue nationale, ils connaissent peut-être 2-3 Biélorusses, mais pas toute la gang dans l'équipe. Ouais, ouais. Et là, ça prend des scénarios. Mettons qu'on arrive au tir de barrage. Pour une raison X, Y, ça peut arriver, on arrive au tir de barrage. Les joueurs ne connaissent absolument pas, en fait, les gardiens ne connaissent absolument pas le joueur de Biélorussie, d'une ville obscure en quelque part, qui va venir shooter contre eux autres. Alors, l'équipe de hockey canadienne, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé des statisticiens. Puis peut-être pas nécessairement les top-notch, là. Des statisticiens, là, on en a tous un sur le coin de la rue chez nous, ouais. Mais on le sait pas parce qu'il travaille toujours dans son sous-sol. Ça fait qu'on le connaît pas. Mais lui, là, il m'en mange les statistiques. Alors, eux autres, l'équipe canadienne de hockey, ils trouvent des statisticiens qui sont dans leur sous-sol, puis ils leur disent, toi, ton mandat, là, on te donne un billet pour les Jeux, mais ton mandat, là, c'est que tu nous sors toutes les stats de l'équipe de Biélorussie à partir du moment où ils ont grimpé junior. Puis là, tu vas nous dire combien de fois ils ont tiré au but, puis quand ils tirent au but, tu as-tu de la droite, de la gauche, quelle feinte ils font. Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec ces équipes-là, mais le statisticien, lui, est derrière les estrades avec son iPad, puis lorsque le line-up, disons, des tireurs au but va sortir, personne ne les connaît. Mais là, ils vont dire, OK, c'est numéro 44, Oleg Petrov. Et là, Oleg Petrov, lui, c'est un droitier, il fait toujours la même feinte. Et normalement, il va toujours se déplacer dernier instant vers la gauche, puis il va essayer de viser le haut du filet avec son revers. Alors, le statisticien, lui, il dit ça à l'entraîneur, puis l'entraîneur dit ça à son goaler, puis le goaler, bien, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais il va dire aussi une probabilité, il va dire qu'il y a 70 % des chances qu'il fasse son revers par en arrière, puis ça donne un avantage. C'est comme ça c'est un clair. Peu qu'on se sert aussi de la stats pour améliorer les équipes.
Écoute, il me reste 1-10, mais je vais te dire, il nous reste une minute parce que je nous connais, on dépasse tout le temps. est-ce qu'il y a... Tu sais, Mikhail Kingsbury, c'est le Sidney Crosby de son sport. Tu sais, je pense qu'il va être d'accord, s'il y en a un qui comprend, c'est toi, là. Est-ce qu'il y a, pas du groupie, mais est-ce qu'il y a de l'admiration, des autographes, des objets qui se donnent, un bâton, un champ? Y a-tu quelque chose? Puis, je te le dis, j'ai mangé tout le temps, il reste 50 secondes.
je pourrais pas te le dire. Je pense que oui, il y a vraiment une complicité qui s'installe, puis même cette complicité-là demeure après les jeux. Ils s'échangent des adresses, ils se parlent. Souvent, ils s'entraînent ensemble, hein? Des joueurs d'hockey de la Ligue nationale, de différentes équipes qui s'entraînent à Montréal lorsqu'ils sont québécois, puis ouais. Ça se mélange avec les athlètes olympiques. Alors, ils se connaissent quand même relativement bien. C'est ça le but un peu. C'est que moi, à mon époque, là, je connaissais mieux l'équipe française que je connaissais mon équipe canadienne de Downhill parce que je côtoyais les Français, qu'est-ce que tu veux. Ça fait là, maintenant, ils essaient de changer ça pour créer une ambiance qui est plus forte, pour créer une équipe qui est plus forte en général. Puis on incite beaucoup, disons, les joueurs de hockey à aller voir l'épreuve de luge, les gars de luge d'aller voir le hockey, vice-versa, là. Simplement parce que c'est un privilège, puis ça permet aussi d'arrêter de penser à son maudit sport, tu sais, parce que c'est ça qui est stressant. Au jeu, là où l'athlète est le plus confortable, c'est quand il est en action. Le pire moment, c'est avant de partir. Une heure avant de partir, là, t'envoies de toutes les couleurs, puis c'est vraiment pas facile.
C'est un messagerie texte, les gens trippent sur tes histoires. Moi aussi, vraiment, bravo Jean-Luc, tu fais ça d'une façon incroyable. On se rejase demain, on se donne un autre rendez-vous, puis tu sais quoi la bonne nouvelle? Il y a juste une semaine de fête d'un jeu.
Excellent, j'ai bien des histoires.
Salut Jean-Luc, on s'en reparle.
Salut.
Bye-bye. Au retour, le nouvel entraîneur adjoint des Goals de San Diego, Maxime Talbot. Et il y a de la peine de partir, je vais vous expliquer pourquoi.